sa voix. Prions, si vous voulez bien. Oui, Seigneur, tu dis de ta parole qu'elle sort de ta bouche et elle ne revient pas à toi sans effet, sans avoir fait ce que toi tu désires, et de remplir la mission que toi tu as confiée à cette parole. Et donc, par ton esprit, nous te prions, Seigneur, d'être actif parmi nous, de nous aider à grandir dans la foi, à contempler de nouveau Jésus-Christ et l'importance d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Que tu sois donc avec nous, et cela pour la gloire de ton nom, nous te prions. Amen. Amen. Alors, je commence en disant que je suis un grand fan de Google Maps. Peut-être vous avez l'équivalent sur Apple, mais d'une certaine manière, j'ai demandé même à mon épouse permission de dire ceci. Elle n'est pas avec nous parce qu'elle est avec les enfants. Google Maps, d'une certaine manière, a sauvé notre mariage. Parce qu'on s'est mariés à l'époque où il n'y avait pas encore le GPS, ni ensuite sur smartphone, une application pour savoir où il fallait conduire. Et on luttait, il faut le dire, à deux, avec deux cultures différentes, de « tout ira bien », d'un côté, à vous de deviner ce qui c'était, ce côté-là, et « ok, mais j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait, à gauche ou à droite, ce rond-point-ci, c'est lequel, quelle sortie », et ainsi de suite. Et on avait du mal, il faut le dire. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de lire des cartes. Et c'est magnifique. Plus besoin donc de dépendre de ton conjoint pour savoir où est-ce qu'on va, ou peut-être sur le passager qui se trouve à côté de vous pour l'instruction suivante. Mais aujourd'hui, oui, nous commençons avec une carte. Et peut-être vous vous dites, wow, c'est difficile d'avoir une telle carte sous les yeux. Mais c'est quoi? C'est une carte du bassin méditerranéen et qui est utile aujourd'hui, dès maintenant, pour nous situer dans le monde du livre des Actes que nous allons découvrir dans un instant. Parce que cette série de prédications que nous entamons maintenant pour plusieurs semaines couvre ce que nous appelons le deuxième et le troisième voyage missionnaire entamé par Paul et certains collègues de l'apôtre Paul. Alors, vous avez la carte sous les yeux. Ne vous inquiétez pas, c'est la seule et dernière fois, j'espère, vous donner un cours de géographie en lien avec la parole de Dieu. En bas de la carte, vous avez au sud l'Afrique du Nord. Peut-être vous voyez cela. À droite, il y a le Moyen-Orient. Jérusalem en bas de la carte à droite, si vous arrivez à voir la petite écriture. Au-dessus, bien plus haut de Jérusalem, il y a la Syrie avec Antioche, qui est la ville nommée sur la carte. Antioche, c'est là où se trouvait l'apôtre Paul au début de ses voyages missionnaires. Car Barnabas, un ami de Paul, un chrétien, qui faisait partie des premiers disciples, il avait recruté l'apôtre Paul pour le ministère à Antioche. Et selon Actes chapitre 11, verset 26, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est là, de là vient notre appellation, même encore aujourd'hui, on s'appelle des chrétiens, parce qu'à Antioche, on les a appelés des chrétiens, des gens concernés par le Christ, Jésus. Et donc, c'est de cette ville que l'Église envoie Barnabas et Paul, par la suite, en mission vers le monde non-juif, pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cela, pour la première fois, a lieu dans Actes chapitre 13, où le Seigneur dit à ses disciples, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, qui devient Paul, pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Donc, Antioche, vous avez aussi sur la carte. Maintenant, on passe vers le nord. Et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui cette grande partie au nord, au milieu de cette carte, ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, là où vous voyez au milieu des noms de différentes régions de l'Empire romain, des différentes provinces, surtout celles qui se trouvent dans l'ancienne province de l'Asie. Alors ici, ne faut pas confondre, bien entendu, le continent d'Asie qui commence aujourd'hui avec la Turquie et va beaucoup plus loin à droite de la carte que nous voyons ici. Non, ici, le province d'Asie de l'époque, comprenez, c'est ce que vous voyez sur la côte ouest de la Turquie. Les régions, ils sont mentionnés ou elles sont mentionnées, la Mysie, la Lydie, l'Asie et la Carie. Les sept églises d'ailleurs de l'Apocalypse, où le Seigneur écrit aux sept églises de l'Apocalypse, se trouvent dans la province d'Asie. Et on voit l'une de ces villes, Thyatire, sur la carte, à côté de Lydie, si vous avez des yeux suffisamment bons pour voir cela. Alors pour finir, on y est presque, en haut à gauche de la carte, il y a ce que nous appelons aujourd'hui la Grèce, avec les deux villes Athènes et Corinthe mentionnées vers le sud. Eux se trouvaient dans la province d'Achaïe, en bas, mais au-dessus d'Achaïe, c'est là où se trouve la Macédoine, avec des villes telles que Thessalonique et Bérée. Je pense que Thessalonique existe encore aujourd'hui, vous pouvez y aller et rendre visite pour vos vacances. Nous, nous ne sommes pas là pour des vacances avec toutes ces villes, mais pour apprendre de la parole de Dieu, pour que ce que nous apprenons lors de ce deuxième voyage de l'apôtre Paul soit pour nous aussi des principes dans notre ministère, en tant qu'Église, dans notre ministère, en tant que disciple de Jésus-Christ. Donc voici la destination, la Macédoine, pour l'apôtre Paul lors de son deuxième voyage. Comme nous allons maintenant entendre, il y avait, lui, l'apôtre Paul, une vision d'un homme de la Macédoine qui l'appelait à lui rendre visite. Et donc je vous invite à retrouver maintenant le texte biblique et on va lire ça ensemble, acte 16, à partir du verset 6. J'avais mis deux versets avant, on va regarder ces versets à un autre moment, mais pour le moment, verset 6 jusqu'au verset 10, ça commence une nouvelle section du livre des Actes, là où on commence notre série. Et voici ce qui est écrit. « Empêchés par l'Esprit Saint de dire la parole aux nazis, ils passèrent par la Phrygie et le pays Galate. Arrivés près de la Mysie, ils tentaient d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils longèrent à l'eau la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien était là, debout, qui le suppliait. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Dès qu'il a eu cette vision, nous avons cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Le début donc de Acte 16, juste deux, trois versets avant ce que nous venons de lire, a commencé un derbe, et je ne sais pas si vous voyez derbe sur cette carte, oui, si vous regardez attentivement, il est là, ensuite à Lystre, là où Paul avait ajouté Timothée à son équipe. Mais notre récit commence donc avec Paul, Silas et Timothée, en train de voyager de Lystre vers Icône, Antioche de Pisidie, dans la direction de l'Asie. Et c'est là que nous allons retrouver donc le plan de notre prédication, car notre premier point dépend de toute cette géographie. Vous verrez cela. Donc ce point nous invite à reconnaître la providence de Dieu sans tomber dans le fatalisme, de reconnaître la providence de Dieu sans tomber dans le fatalisme. Juste avant notre texte, verset 5, donc ça vous voyez dans le livret, le voyage, qui avait déjà commencé, connaît du succès. Dans les villes où il passait, les églises s'affermissaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 5, c'est d'ailleurs comme l'un des marqueurs du livre des Actes pour clôturer toute une section pendant laquelle il y a eu de la progression vers le monde païen avec cette bonne nouvelle de Jésus. Et donc cette nouvelle section démarre par la suite avec une petite surprise, étant donné cette belle progression. L'Esprit Saint empêche cette équipe de dire la parole en Asie. Mais vous voyez de nouveau sur la carte, il s'est trouvé quelque part au milieu de la carte, en dessous du mot que vous voyez Phrygie, c'est là où ils étaient, ils cherchaient à atteindre la région de l'Asie, donc à gauche, lorsque nous le regardons ici, mais ils ne pouvaient pas y aller. Alors, ce n'est pas précisé comment ils ont été empêchés d'y arriver. Donc, ce n'est pas super important pour nous de savoir comment. Un vol annulé? Non, il n'y avait pas de vol. Un train empêché quand il y avait des travaux sur les rails? Non, il n'y avait pas de train. Un officier romain qui disait qu'il ne pouvait pas passer? Peut-être. Un mot prophétique de la part d'un membre de l'équipe? Peut-être. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que du coup, il passait plutôt au nord. Par la Phrygie et le pays Galate, dit le texte, ils atteignent donc le côté droit de la région de la Mysie, que vous voyez de nouveau sur la carte. Et de là, ils veulent monter encore plus haut, vers le nord, vers le Bithynie, que vous voyez sur la carte tout en haut. Mais qu'apprenons-nous encore, verset 7? Mais l'Esprit de Jésus ne leur permis pas. Encore une fois, on ne sait pas pourquoi ou comment l'Esprit de Jésus n'a pas permis une telle démarche. Conséquence, encore sur la carte, il passe à gauche, donc il traverse la Mysie pour descendre au port de Troas qui se trouve sur la mer Égée. Et c'est là où ils découvrent pourquoi leurs plans ont été empêchés jusque-là. Car le projet de l'Esprit, c'est de les envoyer ailleurs. Est-ce ici donc une critique implicite que les apôtres n'ont pas cherché dans la prière la face de Dieu pour comprendre sa volonté pour ce voyage? Non, je ne pense pas. À aucun moment est-ce que le récit nous encourage à voir ce qu'ils ont fait jusque-là d'un œil négatif. Dieu ne nous appelle pas à être passifs, d'en voir fataliste, comme si nous devons attendre qu'il nous guide avant d'agir. Non. Dieu avait déjà donné aux apôtres son mot d'ordre au chapitre 1 de ce livre, le verset 8, très connu, où c'est marqué que les apôtres, « Vous serez mes témoins, dit le Seigneur Jésus, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ensuite, au chapitre 9, il avait déjà dit, le Seigneur Jésus, à Paul, qu'il serait son instrument pour faire connaître son nom aux non-juifs. Donc, les ordres du Seigneur sont déjà clairs. Ces instructions suffisent pour que le deuxième voyage missionnaire démarre. Et cela a bien démarré déjà. Ce n'est pas donc de faute de spiritualité de la part des apôtres qui est en jeu. Mais il faut reconnaître quand même ce que dit le proverbe, proverbe 21-19 je crois. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Est-ce qu'ils se fâchent lorsque leur plan échoue? Est-ce qu'ils se découragent en disant, bah, écoutez, ça suffit, ça fait deux fois qu'on essaye, allez, on rentre. Non, ils continuent. Ils font ce qu'ils doivent faire dans la sagesse que Dieu leur donne, mais de par le fait que certaines portes se ferment, ils arrivent à voir quelle est la porte qui s'ouvre. Et c'est encore ainsi, chers frères et sœurs. Évidemment, le principe qui est en jeu s'applique surtout lorsque nous réfléchissons à la meilleure stratégie de répandre la bonne nouvelle. C'est un peu trop facile, je pense, et trop vite que les croyants d'aujourd'hui aiment prendre ce principe pour dire que face à une petite décision perso, est-ce que je dois déménager ou est-ce que je dois rester là où je suis, alors je cherche la face du Seigneur. C'est une bonne chose de chercher la face du Seigneur, mais le principe ici s'applique lorsque nous sommes en train de réfléchir sur la meilleure stratégie de répandre la bonne nouvelle. Certaines portes ferment, d'autres portes s'ouvrent. Et cela nous aide à voir ce que nous devons faire. Donc, devons-nous, en tant qu'Église, essayer d'essaimer une nouvelle assemblée déjà dans l'immédiat, parce que nous avons quitté Avenue Schlegers, qui est devenu trop petit, ou devons-nous encore rester ici, à Saint-Michel, si Dieu le veut, pendant encore de longues années? Devons-nous viser un essaimage à Bruxelles, ou peut-être ailleurs en Wallonie? Ces questions-là sont importantes pour l'avenir de notre Église. Devons-nous poursuivre dans la même veine de pensée à acheter un bâtiment ou à louer encore ici? C'est légitime et c'est même nécessaire que l'Église avance dans ces réflexions-là, selon les critères bibliques que nous avons. Et nous voyons en agissant si la porte s'ouvre. Et parfois, nous découvrons que la porte se ferme. Le projet de bâtiment dont on vous a parlé pendant de nombreuses fois ces derniers temps, ce projet semble pour le moment être une porte qui ferme. OK, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On boude, on baisse les bras, on quitte l'Église. Non, on continue de faire ce qu'il nous demande de faire. On reconnaît que parfois, dans sa souveraineté, les plans des hommes changent et que Dieu reste à l'œuvre derrière la scène. Et nous pouvons le remercier pour cela dans nos vies perso, dans notre vie collective en tant qu'Église. Et cela nous mène donc au point numéro 2 que vous avez sur le plan. Rejoignons la mission de Dieu, répandre la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Rejoignons la mission de Dieu, répandre la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Le passage de l'Évangile du province d'Asie vers le province de la Macédoine représente une avancée importante pour l'Évangile, car la Macédoine est une nouvelle région géographique pour l'Église. D'ailleurs, c'est l'Europe. C'est la première fois où l'Évangile arrive en Europe, même si eux, ils ne voyaient pas l'Europe de la même façon que nous le voyons aujourd'hui. Et comme pour le premier voyage missionnaire au chapitre 13, il fallait même l'intervention de l'Esprit-Saint pour que cette nouvelle région soit atteinte. Donc, c'est une étape importante dans l'extension de la proclamation de la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Cela nous renvoie de nouveau vers ce chapitre 1, verset 8, car c'est là où nous découvrons que c'est l'Esprit de Dieu qui sera le moteur derrière l'expansion de l'Église. Quand Jésus dit à ses disciples qu'ils recevront de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur eux. Alors, afin de faire quoi avec cette puissance? Qu'ils soient, les 12 disciples, ses témoins. Témoins de ce qu'ils ont vu, témoins de ce qu'ils ont entendu de la part de Jésus lors de son ministère avec eux, après sa mort et sa résurrection, lorsqu'il était encore avec eux. Vous serez donc mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le verset 7 de notre texte, acte 16, précise que l'Esprit est bel et bien l'Esprit de Jésus dont nous avons affaire. Car Jésus, à travers son Esprit, œuvre encore parmi son Église. Jésus-Christ, ressuscité, monté au ciel, est concerné et actif pour le bien de son Église. Il n'est pas donc loin et distant. Non, il est présent avec son peuple, concerné par ce que son peuple est en train de faire. Acte chapitre 1, verset 1, Luc dit d'avoir raconté dans son évangile, dans l'évangile de Luc, tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé, ce qui implique que ce livre, le livre des Actes, s'agit d'un deuxième livre qui raconte ce que Jésus continue à faire et à enseigner. Comment cela? Comment est-ce que Jésus continue a fait cela? Parce que Jésus n'est plus là. Bah, de par son esprit, l'esprit de Jésus. Son esprit, donc, est à l'œuvre pour propulser les apôtres de Jésus-Christ vers la mission avec l'évangile qu'il leur a confié. Cela, nous voyons tout au long du livre des Actes. L'esprit de Dieu rend possible la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'esprit de Dieu se soucie de la proclamation de cet évangile. Et voici l'esprit en train de fermer certaines portes et ouvrir d'autres portes au chapitre 16 pour que l'évangile se répande encore. Donc, je pense que c'est clair que le texte nous invite à rejoindre cette mission de Dieu, de son esprit, de répandre encore à nos jours la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Alors c'est vrai, nous ne sommes pas les premiers témoins comme les apôtres. Nous n'avons rien vu de nous-mêmes, de nos yeux. Nous n'avons rien entendu de nos oreilles. Je n'étais pas là lorsque Jésus y était. Mais nous avons aujourd'hui ici, dans la parole, dans le Nouveau Testament, le récit, les témoignages de ces apôtres. Et donc la tâche des disciples de Jésus aujourd'hui, c'est de répandre cet évangile qui a été confié premièrement aux apôtres et de répandre cet évangile-là dans le monde entier. De faire comme Jésus lui-même le disait à la fin de l'évangile de Matthieu, faire des disciples de toutes les nations, les baptisant et les enseignant d'obéir à tout ce qu'il nous a prescrit. Avec quelle promesse qu'il sera présent avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, par son esprit. Alors pour ce faire, devons-nous encore aujourd'hui attendre des mêmes visions que Paul il a eu ici? Que ce soir je dors et pendant mon sommeil, j'ai une vision d'un homme de la commune de Watermel-Boisfort. Viens à notre secours. Est-ce que j'attends ça pour qu'on se mobilise dans la mission que le Seigneur nous a donnée? Non, non. Pourquoi? Ben ici, c'est intéressant, je pense, c'est utile de mentionner une clé pour la compréhension du narratif. Et nous sommes dans un narratif qui raconte quelques événements, des choses qui ont eu lieu. Ce n'est pas une épître écrite directement à d'autres pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Quand tout ce qui est écrit et qui décrit ce qui a eu lieu n'est pas forcément normatif, on dit. Ce ne donne pas une norme que nous devons copier aujourd'hui. Alors, je vais prendre un exemple qui se trouve dans l'évangile, dans le livre des Actes, qui n'est pas l'exemple de cette vision que nous voyons. On va revenir à cela, si vous voulez. J'aime cet exemple. Paul prêche au chapitre 20, et lorsqu'il est à Troas, d'ailleurs Troas, c'est là où il descendait pour avoir cette vision, lorsqu'il est plus tard à Troas, au chapitre 20, un jeune homme, assis sur le bord de la fenêtre, au troisième étage, tombe dans un sommeil profond lorsque Paul est en train d'enseigner. Et il tombe de ce troisième étage et il meurt. Et alors Paul descend et il prend Eutych, je pense qu'il s'appelle, j'ai oublié tout d'un coup son nom, je ne l'ai pas marqué. Il le prend dans ses bras et il le ramène à la vie. C'est extraordinaire. Ce petit récit au chapitre 20. On y arrivera parce qu'on va prêcher aussi le chapitre 20. Mais ce que j'ai envie de dire, ce n'est pas normatif pour nous, cela, ni pour moi, de prêcher aussi long que vous êtes tous endormis, ni pour vous donner le feu vert de vous endormir lorsque je prêche. Non, le but de Luc, ce n'est pas de reproduire ce que Paul a fait, c'est plutôt de comprendre l'autorité que Paul il a en tant qu'apôtre de faire une telle chose. Donc, c'est quelque chose qui est décrit sans que ça soit une norme pour nous aujourd'hui. Donc, revenons à cette vision. Cette vision que Paul a eue n'est pas la norme pour les croyants d'aujourd'hui. Oui, peut-être vous vous souvenez de Actes chapitre 2 où Pierre avait dit lors de la Pentecôte que vos, en citant la prophétie de Joël, que vos jeunes gens auront des visions. Mais force est de constater, si nous continuons la lecture du livre des Actes ensemble, des visions sont plutôt rares dans le livre des Actes et interviennent à des individus clés, à des moments clés pour la progression de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Étienne, Saul et ensuite Paul, Corneille, Pierre. Ce sont des moments extraordinaires et parce que ces moments sont extraordinaires, nous les avons encore dans le récit du livre des Actes. Ce ne sont pas des choses qui se reproduisent à tout moment. Donc ici, en acte 16, l'Esprit intervient pour que l'Évangile aille de l'avant vers la Macédoine, en lien avec le projet de Dieu. Cela rappelle à quel point le moteur dans la mission n'est pas Paul, mais Dieu lui-même. Et c'est lui, Dieu, par son Esprit, qui assure que cette bonne nouvelle se répande. C'est ça ce que Luc veut mettre en avant lorsqu'il nous raconte cette histoire. Donc la question n'est pas, Dieu est-il capable de nous donner une vision semblable aujourd'hui? Bien sûr qu'il est capable. Mais ce n'est pas ce que ce texte veut encourager. Ce texte veut nous encourager, nous rappeler que Dieu veut, pour citer un autre texte biblique, que tous soient sauvés, que toutes sortes de personnes, sans faire discrimination entre juifs et non-juifs, entre européens ou asiatiques, entre belges et béninois, entre britanniques et bulgares. Dieu veut que tous soient sauvés. Et j'aimerais, pour ce deuxième point, vous donner trois rapides, j'espère, applications. Il ne faut pas encore s'endormir. Avant de passer à notre troisième et dernier point. Donc, trois applications. La première application, c'est de se tourner vous-même vers le Seigneur. Le Seigneur Jésus est la bonne nouvelle de sa grâce envers vous. Peut-être vous êtes en visite parmi nous, peut-être vous êtes présent ce matin physiquement et vous l'êtes régulièrement, mais vous êtes encore absent dans votre esprit par rapport au contenu de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, il faut comprendre que Dieu vous appelle encore aujourd'hui, ce matin, à lui. Il ne se contente pas de ceux qui se sont déjà tournés vers lui. Non, il te cherche, toi aussi. Car lui, ou c'est lui, qui est le Créateur de toute la région de la Macédoine. Ça lui appartient, toute personne donc, qui s'y trouve, lui appartient, c'est lui le Créateur. Ben, il est le Créateur également de chaque personne ici présente. Que vous le veuillez ou pas, que vous êtes là simplement par politesse et pas de bonne foi. Il cherche à ce que vous vous tournez vers lui. Il n'est pas un Dieu donc imaginaire, non, il est réel. Et de ne pas reconnaître ce Dieu maintenant signifie de devoir le reconnaître lorsque vous serez face à lui à la fin des temps. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous faites appel à lui, encore aujourd'hui, à sa grâce, à Jésus-Christ, qui s'est donné sur la croix, que nous venons contempler, nous venons de le chanter, qu'est-ce qui arrive? Il pardonne. Il fait de nous ses enfants, membres de son royaume, encore aujourd'hui. Donc, première application, il faut se tourner vous-même vers le Seigneur. Deuxième application, c'est que nous soyons, si nous sommes en Christ, disciples de Christ, que nous soyons donc concernés, nous aussi, par cette mission de répandre la bonne nouvelle, que nous ne voyons pas notre appartenance à Jésus comme étant rien qu'une croyance privée, qui n'a rien à voir avec mes relations avec d'autres autour de moi. Bien sûr, notre société actuelle en Occident veut nous persuader que c'est bien ça, votre foi ou notre foi, rien qu'un choix perso religieux, plutôt privé, pas beaucoup d'impact sur la vie de tous les jours. Mais Actes, le livre d'Actes explose ce mythe. car le livre trace l'expansion de la foi chrétienne, l'arrivée de l'évangile qui est prêché dans certaines villes pour la première fois et ensuite cru, qui sauve des gens de leur péché, comme nous l'avons entendu, qui voit des personnes de toute ethnie, de tout arrière-plan, se tourner vers le Christ dans la repentance et la foi. Verset 5 qui précédait notre texte, les églises augmentaient en nombre de jour en jour, avec donc de nouveaux croyants. Cela ne se faisait pas par accident, cela se faisait parce que l'église était concernée par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il répandait la bonne nouvelle, non pas de façon légaliste, comme si je dois parler à au moins une personne non chrétienne de la foi chrétienne par jour ou par semaine, comme ça je suis un bon chrétien. Non pas de façon irrespectueuse, où moi j'insiste, irrespective de la volonté de la personne qui est devant moi, de parler de Jésus qui ne marche pas, car une telle personne n'écoute pas ce que je suis en train de dire. Non pas non plus de manière insensée où je fais aucun effort de comprendre comment, dans un contexte ou un autre, je dois rendre ce que je dis clair pour la personne qui m'écoute. Non pas de ces façons-là, mais tout de même de façon à ce que moi je veux que d'autres se tournent aussi vers le Christ. Est-ce que vous avez ça comme désir ou est-ce que cela ne vous regarde pas? Que je comprenne que cela, que d'autres se tournent vers le Christ, n'est que possible si d'autres, et oui, moi-même, je leur parle de mon espérance en Jésus-Christ. Et du coup, je prie pour ça. Je suis concerné par rapport à cela. Je cherche des occasions pour parler de manière appropriée à d'autres à propos de Jésus-Christ. Je cherche à apprendre à mieux pouvoir faire ça par la suite. Troisième application. C'est pour nous, là, maintenant, collectivement, en tant qu'Église, de ne pas penser que notre tâche, c'est de se réjouir uniquement de notre belle fraternité. Merci Seigneur qu'il y a une belle fraternité, notre communion en tant qu'Église. Mais nous devons aller plus loin, d'adhérer à notre devise. Ah non, on a plus le truc bannière derrière nous. On l'a laissé dans le placard, il n'y a pas de souci. Mais la devise qui dit, nous sommes une église qui aime, on aime Dieu et on aime les uns les autres, mais une église qui s'aime et qui s'aime. Mais dans la pratique, ça signifie quoi d'être une église qui s'aime et qui s'aime? Dans la pratique, ça signifie dans notre église que je comprends que d'accueillir de nouvelles personnes dans nos structures et nos groupes est nécessaire. Et donc l'adaptation de nos structures est aussi nécessaire, que parfois, oui, un groupe des quartiers doit être reconfiguré pour mieux permettre l'accueil de nouvelles personnes. Ah non, mais je ne veux pas qu'on touche ça parce que ce sont mes amis. Mais on n'est pas là juste pour des amis, on est là pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que parfois, oui, tristement, même certaines personnes nous quitteront quand le Seigneur les envoie ailleurs dans la mission. Merci Seigneur qu'il fait cela. Que je dois parfois arranger, en tant que membre de l'Église, mon agenda pour que je puisse encore être utile dans la mission. Par exemple, de venir prier pour la mission ou d'assister à certaines formations que Bruxelles, l'Institut biblique, par exemple, de Bruxelles, nous offre. Cela ne se fait pas par accident, cela se fait lorsque nous sommes intentionnés pour mettre la bonne nouvelle de Jésus en priorité. Que j'encourage et je soutiens au moment voulu un essaimage d'église ailleurs, même si cela signifie qu'un certain nombre de mes amis vont quitter avec une telle initiative. Voilà donc quelques moyens pour que je rejoigne, moi aussi, nous rejoignons, nous aussi, ensemble, la mission de Dieu de répandre la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il y a encore un troisième point après ces trois applications. Restons lucides sur notre tâche, proclamer la bonne nouvelle. Restons lucides sur notre tâche, proclamer la bonne nouvelle. C'est frappant, n'est-ce pas, la réflexion de Paul et ses collègues. Suite à la vision de Paul, l'homme de la Macédoine dit « Viens à notre secours » au verset 9. Ben, à notre secours, dans quel sens? Car les soins médicaux ne sont pas aussi avancés comme ils le sont dans les provinces d'Asie ou Galate. Que nous avons de nombreux réfugiés qui ont besoin d'aide dans ce coin. Car nous avons un taux de divorce terriblement élevé en Macédoine, qu'il nous faut de la main d'œuvre pour soigner les enfants qui souffrent à la lumière de cela. Alors, tous ces cas de figure sont légitimes, d'une certaine manière. Galates, chapitre 6, verset 10, dit « À tout croyant, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » C'est une bonne chose de pratiquer le bien envers tous. Soutenir donc les besoins physiques et matériels fait partie de ce que c'est de pratiquer le bien. Et au sein de l'Église, bien sûr, s'occuper de manière pratique des orphelins et des veuves fait partie, d'après Jacques chapitre 1, d'une religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. Mais force est de constater qu'ici, lorsque Paul réfléchit à cette vision, et à sa signification pour son voyage missionnaire, il n'y avait qu'une seule mission en tête. Verset 10, « Dès qu'il a eu cette vision, nous avons cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. » Et cela est en lien donc avec l'ensemble du livre des Actes. Ils sont envoyés comme témoins de Jésus-Christ, c'est-à-dire de son œuvre, de son amour, de sa personne, de sa grâce, de son évangile qui sauve. Cette parole de l'évangile qui se répand est à la source de toute croissance de l'Église dans le livre des Actes, du royaume de Dieu que nous voyons à différents moments exposés dans le livre. Les disciples de Jésus-Christ doivent-ils donc se comporter de manière saine? Bien sûr, doit-il faire preuve de compassion pour les démunis? Bien sûr, doit-il s'efforcer d'aimer le prochain comme eux-mêmes? Bien sûr, mais sont-ils envoyés par Jésus avec ces choses-là comme leur tâche principale? Non, ils sont envoyés pour proclamer la bonne nouvelle de Christ. Voilà donc la mission de l'Église. Voilà en quoi consiste l'évangélisation, le fait de répandre la bonne nouvelle. Les gestes humanitaires, aussi importants qu'ils soient, ne font pas d'un pécheur une personne pardonnée. Et c'est ça la mission de l'Église. Il n'y a pas d'autre mission pour l'Église à part celle-là. De faire des disciples de Jésus-Christ, des personnes qui se tournent vers Christ et se soumettent à son enseignement. Restons donc lucides sur notre tâche, proclamer la bonne nouvelle. Si vous vous posez une question par rapport à ça, j'aimerais vous recommander ce livre-ci en vente dans notre librairie. Quelle est la mission de l'Église? Cela vous serait utile pour réfléchir sur ces questions-là. Et voici une petite illustration tirée de ce livre et ensuite une application de cela. Donc je cite, « Si vous jouez au foot, vous pourrez avoir une bonne défense, une superbe ligne d'attaque, un jeu d'équipe efficace, un magnifique contrôle de la balle. Mais si malgré toutes ces qualités, vous ne parvenez pas à pousser le ballon dans le fond des filets, vous ne gagnerez aucun match. Le score final rappelle à l'équipe ce qui compte réellement. » Cette analogie s'applique aussi à l'Église. Si nous améliorons nos écoles, ou nous trouvons du travail aux gens, nettoyons les parcs et plantons des arbres dans le voisinage, sans toutefois chercher à faire des disciples, nous bénirons peut-être notre société, mais nous n'accomplirons pas la mission de l'Église. Ultimement, je continue à lire, si l'Église ne prêche pas Jésus et Jésus crucifié, si elle n'implante pas, ne nourrit pas, n'établit pas d'autres Églises, si elle n'enseigne pas aux nations à obéir au Christ, rien ni personne d'autre ne le fera. Par contre, toutes sortes d'organisations peuvent s'occuper des besoins physiques. Qu'est-ce qui rend la mission chrétienne? Tout d'abord, il n'y a rien de particulièrement chrétien dans le travail humanitaire. Par exemple, Bill Gates, les Nations Unies, la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et d'autres bienfaiteurs s'efforcent tous de soulager les tourments du monde pour des raisons fondamentalement philanthropiques. Dans le climat social actuel, des éloges sont rapidement décernés aux stratégies humanitaires et l'opprobre s'abat tout aussi rapidement sur les chrétiens qui se préoccupent de l'évangélisation. Il est d'autant plus crucial de garder la priorité comme priorité. Le danger est réel. Si nous n'annonçons pas l'évangile avec des mots, l'histoire ne sera pas dites. L'Église risque de perdre sa raison d'être si elle priorise dans sa vocation le souci de Dieu pour les pauvres et non sa grâce universelle pour les pauvres en esprit. Celui qui a reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre nous appelle à faire des disciples de toutes les nations. Vous pouvez trouver plus là-dessus. Et donc, en tant qu'Église, notre Église, nous devons privilégier aussi notre soutien pour cette mission-là. Une œuvre purement humanitaire, préoccupée exclusivement par l'amélioration de notre vie ici-bas, c'est une bonne œuvre, mais ce n'est pas, dans un sens biblique, une œuvre missionnaire. Pas chrétienne, en tout cas, car notre mission, c'est de proclamer le Christ. Le monde occidental autour de nous veut encore, je pense, réserver une toute petite place de crédibilité pour les chrétiens en disant que le bien que nous faisons pour notre prochain autour de nous, cela est digne de louange. Ça, c'est bien, il faut faire ça, ils disent. Mais parler du prosélytisme, de l'évangélisation, alors là, notre société occidentale est très inconfortable avec ce que nous faisons. Portes ouvertes, la société mondiale qui s'occupe des chrétiens persécutés vient de communiquer que les gouvernements belges et français offrent la possibilité de recevoir un reçu fiscal qui vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66% du montant de votre don dans la limite de 20% de votre revenu. C'est bien, mais sous quelles conditions? Si les dons servent à financer des actions qui répondent à des besoins humanitaires plutôt que bibliques. Donc si vous voulez financer donc les actions bibliques, à savoir donc l'évangélisation et autres, il n'y a pas de déduction pour cela. Alors c'est normal pour un gouvernement occidental d'agir ainsi. Nous ne devons pas être surpris qu'eux, ils ne voient pas la valeur ajoutée de la proclamation de Jésus-Christ. Mais ce qui est triste, ce serait de voir des donateurs changer dans tous leurs dons pour portes ouvertes vers des projets exclusivement humanitaires plutôt que bibliques. Car ce n'est pas normal pour l'Église de se focaliser sur ce que nous voyons sur nos écrans, sur les besoins humanitaires, plutôt que de se concentrer sur ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, de annoncer la bonne nouvelle et ainsi de répondre aux besoins que nous ne voyons pas à l'œil, mais qui sont des besoins réels, qui ont une portée encore plus importante, car il s'agit des besoins qui durent pour l'éternité. Alors restons lucides, c'était notre dernier point sur notre tâche, proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous avons terminé avec un chant qui nous pousse à vouloir rendre gloire à l'agneau sacrifié. Alors nous ne pouvons que chanter cela si nous avons pris connaissance de l'œuvre de Jésus-Christ. Qui est l'agneau sacrifié? Pour nous, nous chantons, il fut crucifié. Son sang a racheté notre âme. Ben, voici la bonne nouvelle que nous devons encore proclamer. Et cette bonne nouvelle ne nous laisse pas indifférents. C'est pourquoi nous chantons notre amour, l'acclame. Nous devons, bien entendu, aimer notre prochain, aimer notre Dieu. Et voilà pourquoi, au sein de l'Église, nous exclamons « Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. » Je vous invite, chers amis, à vous mettre debout et nous allons chanter ce magnifique cantique avec une part pour des femmes, une part pour des hommes. Donc, il faut suivre.